D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a vraiment cette attente d'une précision absolue, quoi.
Ouais, presque chirurgical, on va dire.
C'est exactement ça. On imagine un peu ça comme de l'ingénierie pure. Du genre, si un bras est cassé, la radiographie affiche une ligne blanche bien nette. Le médecin pointe l'écran du doigt et dit « Voilà, la fracture est ici. C'est purement binaire, en fait. C'est cassé ou ça l'est pas. »
Et l'esprit humain adore ce genre de certitude.
Mais carrément. On aime quand les problèmes sont bien visibles, catégorisés et surtout, indiscutables.
C'est le grand confort de la preuve matérielle, en fait. On pose un fait sur la table et hop, le débat est clos.
Sauf que, c'est rarement aussi simple en vrai.
Bah non. Dès l'instant où l'on quitte le domaine très rassurant de la biologie ou de la mécanique pour entrer dans celui de l'économie, de la sociologie ou, pire encore...
L'évaluation de tout un pays.
Voilà, l'évaluation du développement d'une nation tout entière. Là, la machine à rayon X, elle ne fonctionne plus du tout de la même manière. Le diagnostic devient instantanément trouble, sujet à interprétation.
Ce qui est un succès pour les uns devient une catastrophe pour les autres.
Exactement, tout simplement parce qu'ils n'en regardent pas le même indicateur.
Et c'est précisément ce qui rend l'exploration d'aujourd'hui si passionnante pour ceux qui nous écoutent.
Totalement.
Ce qu'on va faire dans cette nouvelle plongée au cœur de l'actualité, c'est d'analyser un document qui tente justement de fournir cette fameuse radiographie indiscutable.
Un gros morceau, d'ailleurs.
Un dossier colossal. On décortique aujourd'hui un dossier spécial publié par l'ODIG Média, daté du 6 juillet 2026.
Donc très récent.
Tout à fait. Et le sujet central, c'est le Maroc. Un pays qui se trouve actuellement à un carrefour historique, enfin, assez vertigineux pour le coup.
Il faut vraiment poser le contexte ici.
Oui, alors pour situer, nous sommes très exactement 5 ans après le lancement de ce qu'on appelle là-bas le nouveau modèle de développement, le fameux NMD.
Un plan de route assez massif.
C'est ça, un plan qui a fixé un cap extrêmement ambitieux pour l'horizon 2035. Mais le constat de ce dossier de l'ODIG, c'est que l'état de grâce s'est terminé.
Fini les promesses.
Voilà. Le temps des grands discours d'intention et des belles présentations PowerPoint s'est révolu. L'heure est à l'évaluation froide, chiffrée, des résultats.
Et c'est là qu'il y a un prérequis incontournable, en fait, quand on veut évaluer la trajectoire d'un pays vers une échéance comme 2035.
Lequel ?
Ben, pour savoir si le cap est maintenu, on ne peut pas juste se fier aux intuitions des ministres ou au ressenti général. Il faut de la donnée.
Ah oui, le nerf de la guerre.
Absolument. De la donnée brute, fiable, incontestable et surtout produite en toute indépendance. Sans ça, le pilotage d'une nation, ça s'apparente juste à naviguer dans le brouillard sans aucun instrument.
C'est le crash assuré.
Exactement. Et c'est pour cette raison que l'analyse de l'ODIG Média ne commence pas directement par des chiffres économiques.
Ah bon ? Par quoi alors ?
Par une révolution institutionnelle majeure qui vient tout juste de redessiner le paysage marocain, à savoir la refonte de bout en bout de l'appareil statistique de l'État.
Bon, décortiquons tout ça, parce que l'ordre des choses est super important ici. Avant même de juger les performances d'une nation, il faut comprendre le thermomètre qui sert à les mesurer, non ?
C'est exactement l'idée, ouais.
Et donc, le 2 juillet 2026, un pas monumental a été franchi. Le projet de loi numéro 047-26 a enfin été adopté pour réformer le Haut Commissariat au Plan, le HCP.
Une réforme très attendue.
Ah, ça traînait depuis presque 5 ans. C'était réclamé par un discours royal dès octobre 2021. Et sur le papier, le texte de loi opère une vraie mutation génétique de l'institution.
C'est-à-dire ?
Eh bien, le HCP devient une instance de bonne gouvernance à part entière. Il est désormais protégé par l'article 159 de la Constitution.
Ce qui n'est pas rien.
Ah, c'est énorme. Ça le place au même niveau d'indépendance que le Conseil de la concurrence ou la HACA, le gendarme de l'audiovisuel marocain. On parle vraiment d'une personnalité morale distincte et d'une autonomie financière totale.
Et ce qui est fascinant ici, c'est que la structure interne prévue par ce projet de loi est particulièrement révélatrice des nouvelles ambitions du pays.
Dans quel sens ?
L'OGM Média souligne que ce nouveau HCP n'est plus du tout pensé comme une simple usine à produire des tableaux Excel isolés.
Fini le côté juste comptable, quoi.
Voilà. Il repose désormais sur 2 piliers colossaux. Le premier pilier reste classique, c'est la production statistique pure.
L'inflation, le PIB, ce genre de choses.
C'est ça. L'élaboration des comptes nationaux, la photographie de l'économie. Mais le vrai changement de paradigme, il se trouve dans le second pôle.
Qui sert à quoi ?
Il est entièrement dédié à la coordination stratégique des politiques publiques et à l'évaluation du développement. En gros, le HCP devient le grand gardien du temple du nouveau modèle de développement.
Et ils ne font pas les choses à moitié, hein, pour armer ce nouveau pôle. Le document mentionne carrément l'intégration directe de plusieurs institutions très prestigieuses sous la coupe du HCP.
Oui, c'est une absorption complète.
Ouais, notamment l'INSEA, donc l'Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée, et l'École des Sciences de l'Information.
Pour muscler leur rang, j'imagine.
Exactement. L'idée, c'est d'aspirer les meilleurs data analystes, les démographes, les ingénieurs pour traiter la donnée à une échelle vraiment microscopique, commune par commune.
C'est une vraie frappe chirurgicale de la donnée, hein.
Mais le détail qui m'a le plus frappé dans ces dossiers, c'est l'obligation légale faite aux autres ministères. La loi va forcer toutes les administrations à transmettre leurs propres données au HCP.
Pour casser les stylos, en fait.
Voilà, on veut casser la bureaucratie. Et pour couronner tout, le HCP devra présenter un rapport annuel qui sera débattu publiquement au Parlement.
C'est là qu'on touche à la reddition des comptes.
Mais attends, en lisant ces détails, il y a quand même une contradiction qui me saute aux yeux.
Vas-y, je t'écoute.
Si ce nouveau super HCP est chargé, via son second pôle, d'accompagner et de coordonner les politiques de l'État,
ouais,
mais tout en gardant, via son premier pôle, la mission de mesurer les résultats et donc potentiellement les échecs de ces mêmes politiques, n'y a-t-il pas un immense problème de posture?
C'est une excellente question.
Parce que c'est comme demander à l'arbitre d'un match de foot d'enfiler le maillot d'une équipe, de jouer 10 minutes, puis de reprendre son sifflet pour juger si l'action qu'il vient de mener mérite un carton ou non.
J'adore l'analogie.
Bah oui, comment on peut être à la fois concepteur et juge?
Et ce paradoxe, il est justement au cœur des inquiétudes soulevées par la rédaction de l'UDJ. Parce que l'indépendance, sur le papier, d'un projet de loi, c'est toujours très poétique.
Ah, les belles promesses constitutionnelles.
Voilà. Mais l'indépendance réelle, elle, se heurte toujours au fonctionnement brutal du pouvoir.
Le mur de la réalité.
C'est ça. Le risque majeur décrit par les sources, c'est que le HCP perde sa vocation de thermomètre impartiel pour devenir une sorte de service de la météo gouvernementale.
Ah ouais, le service qu'on appelle pour annoncer un grand soleil alors qu'il pleut à verse sur le terrain.
Exactement. La véritable épreuve de force pour ce nouveau HCP ne sera pas de publier des statistiques flatteuses. Ça, tout le monde sait le faire.
Ouais, c'est facile ça.
La vraie épreuve, ce sera de maintenir sa capacité à sortir des chiffres qui contredisent ou qui dérangent frontalement le gouvernement en place.
Surtout sur cette question de forcer les ministères à livrer leurs données, quoi. Dans n'importe quelle bureaucratie au monde, l'information, ben, c'est le pouvoir.
Totalement. C'est la monnaie d'échange numéro un.
À un ministère de la Santé ou de l'Éducation qui sait que ses propres chiffres sont catastrophiques, il fera tout pour retenir l'information, la noyer ou la retarder.
Mais bien sûr, la rétention d'informations, c'est un mécanisme de défense institutionnelle universel, hein.
Voter une loi qui oblige le partage, c'est une chose.
L'appliquer au petit art, c'en est une toute autre. Sans un accès direct, transparent et en temps réel aux données brutes des autres départements, la mission de coordination du HCP est tout simplement impossible.
Donc le rapport annuel au Parlement, c'est pour ça, hein ?
Oui, le débat parlementaire est conçu pour ça, pour exposer publiquement ceux qui refuseraient de jouer le jeu. Mais bon, la crédibilité de ce nouveau super-arbitre, elle dépendra vraiment de sa capacité à rester en dehors de la mêlée politique au quotidien.
Ouais, ça va être un vrai numéro d'équilibriste. Alors, puisqu'on parle de l'art de mesurer la réalité sans complaisance, plongeons dans la méthode que l'ODJ Média a elle-même appliquée.
Ah oui, leur fameuse grille d'évaluation.
Voilà. Pour évaluer ces 5 premières années du NMD, ils n'ont pas fait dans la dentelle linguistique, hein. Ils ont utilisé une grille d'une brutalité assez rafraîchissante.
Classement en 3 colonnes toutes simples.
C'est ça. Fait, presque fait et pas fait.
Bam. Pas de nuances diplomatiques, pas de jargon.
Rien du tout.
Et quand on regarde la répartition des chantiers dans ces colonnes, je trouve que le contraste donne un peu le vertige.
Mais c'est parce que cette grille binaire, elle est extrêmement puissante en fait. Elle court-circuite complètement la rhétorique politique.
Ça ramène les choses au concret.
Précisément. Ça ramène le débat à l'expérience quotidienne. Que ressent le citoyen moyen? Y a-t-il un médecin dans la région ou pas? Y a-t-il de l'eau au robinet ou pas?
Bon, commençons par ce qui fonctionne. Le verre à moitié plein. La colonne du fait est presque fait.
Il y a des avancées majeures, il faut le dire. Oui. Le dossier le reconnaît. Déjà, l'élargissement de la protection sociale est acté. C'est un chantier titanesque qui pose vraiment les fondations d'un État social.
C'est historique pour le pays.
Ensuite, la digitalisation de l'administration avance très sérieusement. Ça facilite concrètement la vie des usagers.
Fini les files d'attente interminables pour un papier.
Et puis, il y a le très grand dossier de l'eau. Face à un stress hydrique historique, genre vraiment critique, le rapport indique que l'État a su réagir dans l'urgence.
Les fameuses usines de dessalement?
Ouais, on voit des usines de dessalement d'eau de mer monumentales sortir de terre à une vitesse record pour alimenter les grandes métropoles côtières.
Ce qui a évité le pire, clairement.
La catastrophe totale a été évitée de justesse. Bon, même si l'équilibre reste ultra précaire.
Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde la colonne d'à côté.
Ah oui, la colonne « pas fait ». Et là, c'est intriguant, parce qu'on y trouve l'essence même de ce qui devait changer la vie des gens.
Les promesses fondamentales du NMD.
Exactement. L'éducation.
Un rapport est glacial.
Oui, on a réformé les statuts sur le papier, mais le niveau réel des élèves dans les classes, bah, il décolle pas.
Les chiffres de lecture et de maths restent inquiétants.
Et la santé. Le décalage est encore plus absurde. L'État a distribué des millions de cartes d'assurance maladie, super, mais le dossier montre que les patients arrivent dans des dispensaires régionaux qui sont désespérément vides.
Il manque cruellement de médecins sur le terrain.
Il en manque des milliers. Et enfin, l'emploi, la mère de toutes les batailles. Ça reste une promesse fantôme. Le chômage des jeunes ne baisse pas, l'économie ne crée pas assez de travail.
Si on relie ça à la situation globale, il y a une ligne de fracture très claire entre ces deux colonnes. C'est une leçon d'économie politique assez fondamentale.
Comment ça, ouais?
Regardez bien, qu'est-ce qui est fait? Ce sont des infrastructures, des plateformes numériques, des chantiers d'ingénierie.
Le béton et les câbles.
Voilà. Construire une station de dessalement, c'est hyper complexe techniquement, d'accord? Mais au fond, c'est juste une question de budget et de contrat public. Ça se décrète et ça se réalise en quelques années.
Ouais, on signe le chèque et ça sort de terre.
Exactement. En revanche, qu'est-ce qui n'est pas fait?
L'école, la santé, l'emploi.
Tout ce qui touche à la transformation du capital humain.
Attends, tu veux dire que construire des murs, c'est plus facile que de former les gens qui travaillent à l'intérieur?
Mais c'est la réalité implacable toute politique publique. Décréter l'assurance maladie universelle par une loi, c'est très rapide. Le Parlement vote, c'est fait.
Mais derrière, faut le personnel.
Bah oui, former un médecin spécialiste, le convaincre de s'installer dans une région enclavée plutôt que de partir à l'étranger ou dans une grande clinique luxueuse de la capitale.
Ça se règle pas avec un décret?
Non, ça demande des incitations complexes, un écosystème de vie attractif, des écoles pour ses enfants, et surtout plus d'une décennie de préparation. On ne crée pas de l'excellence éducative ou médicale sur commande.
Le dossier de l'ODJ met vraiment le doigt sur ce paradoxe, hein. Le matériel avance vite, l'immatériel stagne.
Et cela renforce un concept très fort que l'éditorial appelle le Maroc à deux vitesses.
C'est-à-dire une fracture géographique?
Oui. D'un côté, les grandes villes côtières ultra connectées, abreuvées par les stations de dessalement, qui vivent de plein pied dans la modernité.
Et de l'autre?
De l'autre, des bassins ruraux ou semi-urbains entiers qui souffrent de coupures d'eau et qui voient leurs jeunes diplômés s'exiler, faute de perspectives locales.
Cette inertie sur les chantiers humains, ça nous amène d'ailleurs au point d'orgue de l'analyse de l'ODIG. Pourquoi la machine s'enraye-t-elle autant sur l'emploi et l'ascension sociale?
Parce que les auteurs refusent la facilité.
Ouais, ils refusent de dire que c'est juste une question de temps, du genre « faut patienter » ou de la simple malchance macroéconomique.
Ils pointent vers des mots structurels profonds.
Des mots que la classe politique évite soigneusement d'aborder de front d'ailleurs. Ils identifient vraiment deux bombes à retardement.
Lesquelles?
D'abord, l'asphyxie silencieuse de la classe moyenne. Et ensuite, le sort des PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont décrites littéralement comme les grandes sacrifiées du modèle.
C'est un point crucial de leur analyse.
Et là, il faut vraiment qu'on s'arrête un instant, parce que je ne comprends pas un truc.
Je t'écoute.
On vient de souligner, il y a deux minutes, que le pays se digitalisait à grande vitesse. L'administration devient électronique.
Oui, le fait de tout à l'heure.
Voilà. Logiquement, si tout passe par des portails numériques, l'environnement des affaires devrait devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent, non?
En théorie, oui.
Les passe-droits devraient disparaître grâce aux algorithmes. Donc, une économie moderne et digitale n'est-elle pas censée devenir, mécaniquement, le terrain de jeu idéal pour les jeunes entreprises et les PME?
Loin des vieux dinosaures, tu veux dire?
Ouais, loin des monopoles historiques.
Eh bien, c'est exactement le piège intellectuel dans lequel tombent beaucoup d'observateurs de bonne foi.
Comment c'est un piège?
L'analyse de l'ODJ est redoutablement affûtée sur ce point précis. Moderniser les outils d'un pays ne signifie absolument pas libéraliser son économie.
Ah, l'outil change, mais pas les règles du jeu.
C'est ça. Vous pouvez parfaitement avoir une administration qui fonctionne avec les dernières technologies, voire avec de l'intelligence artificielle.
Et en même temps?
Et en même temps protéger un système économique archaïque basé sur la rente. La colonne pas fait la plus critique aujourd'hui, ce n'est pas l'école, c'est le démantèlement des oligopoles.
Concrètement, comment fonctionne ce verrouillage alors? Comment une PME se fait-elle écraser alors que la loi est censée garantir la libre concurrence?
Parce que les mécanismes de la rente sont bien plus subtils que la simple corruption sous forme d'enveloppe glissée sous la table.
Donne-moi un exemple concret tiré des sources.
Prenons un jeune entrepreneur marocain qui veut lancer une entreprise de logistique ou de construction.
Ok. Il est motivé? Il a son diplôme?
Il a le talent, il a un peu de capital. Mais pour exister, la première étape, c'est d'accéder au foncier industriel.
Le terrain pour s'installer.
Voilà. et ce foncier, il est rare et très souvent préempté par des grands groupes historiques par le biais de réseaux d'influence.
Bon, disons qu'il arrive quand même à trouver un local.
Très bien. Ensuite, il veut postuler à un marché public numérisé. Il va sur le super portail moderne de l'État.
Tout est transparent, là.
Le portail est moderne, oui. Mais le cahier des charges de l'appel d'offres a été rédigé de telle manière qu'il exige des références passées colossales.
Du genre, avoir déjà construit 10 hôpitaux.
Exactement. Ou alors un type d'équipement ultra spécifique. Bref, des critères que seuls les trois géants historiques du secteur possèdent déjà.
Ah, je vois. L'algorithme éliminera la PME de manière tout à fait automatique et légale.
C'est ça. Ajoutez à cela des banques frileuses qui prêtent difficilement aux nouveaux entrants.
Et les délais de paiement.
Ah, les délais de paiement des grands donneurs d'ordre qui asphyxient littéralement la trésorerie des petits prestataires.
Donc au final, tu obtiens un mur de verre. Le système est légalement truqué en faveur de ceux qui sont déjà en place.
C'est l'essence même de l'oligopole. La concurrence est étouffée non pas par l'illégalité, mais par des barrières à l'entrée insurmontables.
C'est fou de se dire que tout est structuré comme ça.
Et c'est ce qui explique le décrochage de l'emploi et le désespoir de la classe moyenne.
Parce que ce sont les petites boîtes qui embauchent le plus.
Bien sûr. Ce sont les PME qui créent la masse des emplois, pas les grands groupes rentiers qui optimisent leurs marges.
Le problème, j'imagine, c'est que briser ce système demande un courage politique inouï.
Inouï, c'est le mot. Construire un hôpital, tout le monde est d'accord. Ça rapporte des voix aux élections, ça fait de belles photos.
Alors que s'attaquer au cahier des charges des marchés publics?
Sanctionner sévèrement les cartels ou libérer l'accès aux fonciers pour tous. Cela revient à déclarer la guerre aux acteurs économiques les plus puissants et les plus influents du pays.
C'est vertigineux de voir comment tout se tient dans cette analyse. Il faut un HCP puissant pour mesurer l'échec de la mobilité sociale.
Qui lui-même est causé par un écosystème bloqué.
Exactement. Un écosystème de PME verrouillé par un capitalisme de rente.
C'est une boucle.
Mais a priori, on pourrait se dire un truc en lisant tout ça.
Quoi donc ?
On pourrait se dire que parler de barrières à l'entrée, d'oligopole ou de réforme institutionnelle de la statistique, ce sont des sujets super arides.
Réservés aux experts en cravate.
Ouais, que ça ne va intéresser personne en dehors d'une niche de politologue ou d'économiste.
C'est ce qu'on pourrait croire, oui.
Eh ben, la dernière partie des sources que nous avons analysées détruit complètement ce préjugé, avec des chiffres hallucinants.
Les fameuses statistiques d'audience du média lui-même.
Voilà. L'ODJ Média a publié ses propres statistiques pour le premier trimestre 2026. Et c'est un véritable séisme.
Leurs contenus d'analyse ont touché un monde fou, hein, Nanson.
Plus de 100 millions de personnes atteintes. 67,2 millions de vues au total, soit un bond stratosphérique de plus de 378%.
C'est monumental pour de l'analyse économique.
Mais la vraie secousse, le détail qui tue, c'est la provenance de ce trafic. On pourrait s'attendre à ce que les intellectuels consomment ça sur de longs formats YouTube ou sur des sites spécialisés très austères.
Et c'est pas le cas.
Pas du tout. L'explosion absolue, le raz-de-marée, a lieu sur Instagram.
Sur Instagram.
Ouais. Près de 35 millions de vues sur Insta, en hausse de plus de 53%. Pendant ce temps-là, TikTok monte des signes de fatigue et YouTube stagne complètement.
C'est fascinant.
Des analyses macroéconomiques sévères sur les oligopoles, qui font des millions de vues entre deux reels de vacances ou des photos de brunch sur Instagram. Comment on explique cette anomalie de l'algorithme ?
Eh bien, cela soulève une question très importante. Et pour moi, ce n'est pas une anomalie. C'est un symptôme sociétal majeur.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Le manifeste de l'OG explique leur ligne éditoriale par une volonté très claire, je cite, « de mettre le public en ligne avec le réel et non de se poser en tribunal militant ».
Pas de jugement, juste des faits.
Exactement. Ce que cette explosion de l'audience sur une plateforme de pur divertissement comme Instagram démontre, c'est une mutation profonde de la demande citoyenne.
Les gens ont marre de la langue de bois.
La société de 2026 est en pleine saturation de la communication politique traditionnelle.
Fini les belles paroles.
Les éléments de langage tout rond, les promesses de jours meilleurs dans 10 ans, les vidéos institutionnelles lisses avec une petite musique inspirante, tout cela ne passe plus.
Les gens réclament l'addition, en fait. Ils veulent qu'on leur explique par A plus B pourquoi leur quotidien coince.
C'est exactement ça. Et particulièrement cette fameuse classe moyenne qui se sent complètement étranglée.
Ouais, on comprend mieux leur réaction.
Quand un média publie une vidéo courte, hyper sourcée, qui explique avec cette fameuse méthode « fait pas fait » pourquoi il n'y a pas de médecin dans leur ville ou pourquoi les jeunes ne trouvent pas de travail à cause des monopoles...
Ça crée un déclic.
Ça crée un choc de validation énorme. Le citoyen se sent respecté parce qu'on s'adresse directement à son intelligence, pas à ses émotions.
L'audience Instagram ne cherche plus juste du fun alors ?
Non, elle exige la reddition des comptes. Elle utilise ces contenus hyper factuels pour mettre des mots et surtout des chiffres sur une injustice qu'elle ressentait viscéralement, mais sans pouvoir vraiment la nommer ou la prouver.
C'est puissant comme dynamique.
Et cette soif de transparence radicale, c'est précisément ce que le nouveau modèle de développement avait théorisé comme étant la nouvelle norme démocratique au Maroc.
Sauf que là, c'est le public qui force la marche.
Le public prouve qu'il est prêt. La balle est désormais dans le camp des institutions, et notamment de ce nouveau HCP.
C'est une manière vraiment fascinante de boucler la boucle de notre discussion.
Tout est lié au final.
Oui, si l'on résume ce vaste périple analytique au cœur du Maroc de 2026, la destination finale, 2035, elle est connue et elle est extrêmement ambitieuse.
Le cap est fixé.
Le thermomètre institutionnel, lui, est en cours de calibrage avec la refonte quand même spectaculaire du Haut Commissariat au Plan.
Sous réserve que son indépendance soit réelle.
Voilà. Mais face à l'épreuve du réel, le pays se cogne violemment contre le mur de l'exécution. Si le béton coule pour les usines de dessalement et que les plateformes numériques s'allument, le capital humain, lui, souffre.
Et la classe moyenne suffoque.
Elle suffoque sous le poids d'une économie encore verrougée par la rente. Ce que l'on retient tous de cette exploration des sources, c'est une loi immuable de la gouvernance, je crois.
Laquelle ?
Rédiger une stratégie brillante sur le papier, c'est un bel exercice intellectuel. Mais affronter les rentes pour la mettre en œuvre sur le terrain, c'est un acte de bravoure politique rare.
Et pour pousser la réflexion un peu au-delà de ces constats, on peut se poser une question fondamentale valable pour l'avenir de n'importe quel pays dans cette situation.
Je sens la question provocatrice arriver.
Imaginons un instant que ce nouveau super SCP atteigne sa forme absolument parfaite, qu'il devienne totalement indépendant, qu'il brise tous les secrets ministériels avec succès.
Le scénario idéal, quoi.
Voilà. Et qu'il commence à publier des rapports chiffrants avec une précision mathématique le coût exact de la corruption et des oligopoles sur le pouvoir d'achat quotidien des citoyens.
Ah oui, le vrai coût de la rente.
La question vertigineuse, pour finir, est la suivante. La simple publication publique de cette vérité crue suffira-t-elle à provoquer un électrochoc politique capable de faire tomber le système de rente ?
Ou bien au-delà de la simple économie. Un immense merci aux esprits curieux de nous avoir suivis dans cette dense exploration. Continuez à décortiquer le réel, refusez toujours les évidences faciles et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.